C'est Sortir du colonialisme sur Radio Libertaire 89.4. On est ensemble jusqu'à 17h30. L'émission sur Bobby Sands qui était prévue aujourd'hui finalement, comme vous allez vous en rendre compte, n'a pas lieu. Elle aura lieu le 16 décembre. Aujourd'hui, on va parler du Rwanda sous l'angle de l'implication française dans la planification du génocide des Tutsis. Alors, je rappelle que du 6 avril au 4 juillet 1994, 1 million de Tutsis ont été massacrés par les troupes génocidaires de l'armée gouvernementale en place au Rwanda. Et les responsabilités ne sont pas seulement à chercher au Rwanda, mais ailleurs, c'est-à-dire ici, en France. Un petit cercle d'initiés, de Happy Few, gravitant autour de François Mitterrand, ont planifié, organisé, systématisé une véritable politique d'épuration ethnique, mettant la raison d'État et le secret défense au service de leurs intérêts géostratégiques dans la région. Les complicités françaises sont à envisager d'un point de vue militaire, logistique, diplomatique, que ce soit une diplomatie ouverte ou secrète, barbouzarde, le capitaine Barry le traînait quand même dans le coin, incluant le conditionnement psychologique, le mensonge, la manipulation et la falsification de l'information, et tout ça au plus haut niveau de l'appareil d'État. Maintenant, on aborde même une phase de quasi-négationnisme. Alors on va tout d'abord revenir sur un rappel historique de quelques faits et de ce que fut la si joliment nommée Opération Turquoise, et on va entendre le témoignage d'un survivant du massacre de Bicécéro qui dénonce nommément l'implication de militaires français dans les massacres. Alors nos invités, je vous les présente, il s'agit de Jacques Morel, auteur de « La France au cœur du génocide des Tutsis ». C'est un titre assez euphémique qui est paru à l'esprit frappeur. Donc bonjour Jacques. Voilà. Et Eric Zabihimana, qui est donc un survivant du massacre dont je viens de vous parler et dont on reparlera plus précisément dans la deuxième partie de l'entretien. Mais avant de commencer, on va écouter un premier morceau. Alors c'est une chanson de Billie Holiday, mais qui est interprétée ici par Nina Simone. Elle s'appelle Strange Fruit.
Southern trees. Barren, strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees, pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, clean and fresh, then the sudden smell of burning. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the leaves to drop. Here is a strange and
Simone. Strange Fruit, pour vous expliquer un peu la chanson, c'est en fait les Noirs qui étaient lynchés, massacrés par le Ku Klux Klan et qu'on retrouvait pendus aux arbres. Voilà. On rentre maintenant dans le vif du sujet et donc on parle du génocide des Tutsis au Rwanda. Mais je voudrais savoir, enfin tout le monde voudrait savoir, quel a été en fait le déclenchement des événements, comment le projet génocidaire est-il né? J'imagine qu'il n'a pas démarré en 94.
Oui, le génocide des Tutsis au Rwanda tire ses racines depuis les années 59, puisque en 1959, il y a eu le massacre des Tutsis, il y a ceux qui ont été obligés d'être exilés à l'étranger parce qu'ils étaient menacés par les Hutus à l'époque. Il y a ceux qui ont été déportés dans les régions qui n'étaient pas favorables pour la vie humaine, notamment à Bugesera, à Nyamata plus précisément, pour y être, se faire tuer par la mouche tsetse par après.
La France a immédiatement soutenu le projet.
Je sais pas. En 1959, j'étais pas encore là, je ne sais pas si.
C'est dans les années 1960, au moment de l'indépendance, que la France a soutenu la proposition d'entrée du Rwanda aux Nations Unies avec la Belgique. Okay. Mais en fait, le processus génocidaire a commencé avant 1959. C'est là que les heurts ont éclaté. Pour fixer les idées sommairement, l'attitude des colonisateurs a été, comme d'habitude, disons, de diviser pour régner. Les premiers, ça a été les Allemands. Ils étaient très peu nombreux. Ils sont appuyés sur le régime en place, qui était une royauté. Par rapport à d'autres pays africains, le Rwanda était original, puisque c'est un État extrêmement structuré autour d'une royauté qui avait ses avantages et ses défauts, mais il n'y avait pas de conflits tels qu'ils le sont devenus dans les années 1990 et, comme a dit Eric, à partir de 1959. Ensuite, la Première Guerre mondiale a eu des conséquences au Congo et au Rwanda, parce que la force publique belge venant du Congo a foutu en l'air, disons sommairement, les Allemands. Et ce sont les Belges qui, après, sont devenus les colonisateurs avec un mandat de la SDN. Et il y a une des dates importantes, c'est disons dans les années 1930, les Belges, sur recommandation des missionnaires, ont démis le roi, le Mouami. Et fait important aussi, ils ont introduit une sorte de carte d'identité.
Voilà. Hein,
parce qu'il y avait cette histoire de race, Tutsi ou Tutois, et ils ont, gravé ça dans le marbre par ce système de carte d'identité.
Voilà, c'est là où on se rend compte qu'en fait, un génocide, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est vraiment un conditionnement psychologique qui se fait très très longtemps à l'avance et qui conditionne les gens à voir l'ennemi en face d'eux.
Si vous reprenez le travail de Hilberg sur l'éradication des Juifs d'Europe, vous voyez ce processus que j'appelle génocidaire en quatre temps. D'abord la définition des victimes.
Oui.
Alors au Rwanda, c'était assez spécial parce que il y a d'abord eu cette définition de race. Hein. En fait, comme le dit Jean-Pierre Chrétien, c'est des catégories sociales qui ont été racialisées.
Ouais.
Hein, en gros, le Hutu étant agriculteur et le Tutsi étant éleveur, berger, etc. Et comme vous savez, il y a une opposition toujours entre
depuis
ceux qui ont des vaches.
Bon,
vous avez le récit de la Genèse qui est une transcription exacte de ce qui s'est passé avec. Il y avait Dieu qui préfère la viande que lui a sacrifiée Abel, parce que dans la Bible, Dieu n'est pas du tout végétarien.
Non.
Et c'est lui qui fout la merde entre deux frères. Et ça s'est
comme
passé
souvent,
exactement,
j'ai envie de dire, mais...
comme ça au Rwanda, parce qu'un fait extrêmement important, c'est que le Rwanda était considéré par les missionnaires comme quasiment leur royaume.
Ouais.
Et il y a un ordre missionnaire qui est assez qu'il faut noter, c'est l'ordre des Pères Blancs. Et alors que les Français ne sont pas du tout là, mais les Pères Blancs qui ont été expulsés d'Ouganda se sont installés au Rwanda. Et il faut voir ça aussi dans le contexte de la séparation de l'Église et de l'État en France. Oui. C'est que il y a des ordres religieux français, bon, souvenez-vous de Monseigneur Lavigerie, qui se sont cherchés, disons, des territoires en Afrique. Et le Rwanda, c'est vraiment été un royaume chrétien, à tel point que c'est en quelle année, c'est enfin 45 ou 44, je ne sais plus, le Rwanda était consacré au Christ roi. Okay. Et ce qui s'est passé il faut d'abord dire que donc les colonisateurs se sont appuyés sur une certaine élite pour gouverner. C'était la méthode d'administration indirecte. D'abord les Allemands, mais ensuite les Belges. Mais les Belges aussi s'appuyaient sur les missionnaires qui eux connaissaient la langue, le Kinyarwanda. Et c'est un fait extrêmement important de savoir que il n'y a pas plusieurs langues au Rwanda. Il n'y a pas besoin de la langue de français ou d'anglais. Ils ont leur langue.
Bien sûr.
Sur lesquels s'appuyaient les colonisateurs belges et qui ont pu recevoir un peu d'éducation se sont émancipés après la Deuxième Guerre mondiale et songeaient sérieusement à l'indépendance et songeaient à contester le monopole qu'avait l'Église catholique sur l'enseignement. Et on peut dire que par cet enseignement, les missionnaires ont fait rentrer dans les têtes ce qu'on appelle le mythe amitique, cette histoire que les Tutsis n'étaient pas des autochtones, mais venaient d'Éthiopie ou d'Égypte, voire d'Europe ou d'Asie, comme le dit Gobineau. Et c'est le mythe amitique, on retrouve là le mythe amitique créé par Gobineau.
Qui est le théoricien des races.
Il me semble.
Oui. Oui, non, mais je vous précise parce qu'on ne sait jamais si des gens ne savaient pas. Et oui, en fait, quand le génocide a explosé donc en 94, en fait, c'était donc pas une surprise puisque les Français avaient déjà essayé d'exfiltrer leurs ressortissants. On parle de l'opération Amaryllis où déjà les Européens tendaient à faire sortir du pays leurs propres ressortissants, ce qui est bien le signe que quelque chose se préparait.
Oui, quelque chose se préparait. Même Monsieur Bagosora a dit à Kigali, en Tanzanie, lors des accords d'Arusha, qu'il allait créer un apocalypse sur Kigali, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui se préparait.
Et en fait, l'élément déclencheur, s'il faut en trouver un, c'est le fameux crash de l'avion d'Abiyarimana, celui dont on n'a jamais retrouvé la boîte noire, parce que, je ne sais pas, elle a dû se perdre, on n'en sait rien. Et tout ça, ça fait suite à une propagation de, alors on dit rumeur avec des gros guillemets, c'est-à-dire de désinformation, de fausses informations qu'on faisait circuler toujours dans cet esprit de moteur de conditionnement. Et finalement, les Tutsis ont été accusés d'avoir crashé l'avion du président.
Les accusations étaient portées contre les Tutsis, même avant le crash, parce que quand le FPR a attaqué le pays en 1990...
Le FPR, c'est-à-dire le Front...
Le Front Patriotique Rwandais, voilà. Le gouvernement en place se disait que ce sont les Tutsis qui sont ennemis du Rwanda, que ce soit ceux de l'extérieur ou de l'intérieur, alors que les Tutsis qui étaient dans le pays n'en savaient rien à propos de l'attaque du FPR. Les pauvres paysans Tutsis à l'intérieur du pays ne savaient pas ce qui se passait avec le FPR qui attaquait à l'époque.
Et
le crash de l'avion a été l'élément déclencheur du génocide qui était déjà préparé puisque le crash a eu lieu le 6 de la soirée et c'est tout le pays qui est menacé tout de suite. C'est que tout le monde était arrêté ou préparé à ce que il y ait des tueries tout de suite.
Et les génocidaires ont remercié la France de son soutien très rapidement, lui ont même demandé de l'aide. Et je crois qu'on peut dire que le gouvernement intérimaire rwandais a même été formé dans les locaux même de l'ambassade de France, c'est-à-dire en fait une couverture politique du génocide. Et l'opération turquoise donc, qui a été lancée, c'est une espèce de fauné pseudo-humanitaire, mais dont le véritable but était la défense de l'armée. Donc, est-ce qu'on peut dire que la France a cautionné par là même un nouveau crime d'État, un niveau de masse, mais un crime d'État comme elle sait faire, quoi, comme le 17 octobre, comme l'affaire Maurice Audin.
La France avait déjà commencé a appuyé le Rwanda avant même le crash de l'avion lors de l'attaque dit Front Patriotique Rwandais parce que j'ai appris qu'il y avait des militaires français qui allaient au front avec les forces armées rwandaises à l'époque. Alors, il y avait une coopération militaire qui datait de longtemps. Et
il y a une collaboration.
Il y avait une collaboration étroite avec la France, je pense.
Oui. Et si je peux préciser ça.
Mais bien sûr, avec plaisir.
À propos de l'attentat, vous avez dit on n'a jamais retrouvé la boîte noire.
Ah ben non, elle s'est perdue.
Ça n'est pas difficile, il faut chercher dans Paris. puisque... après le crash de l'avion, le crash qui a eu lieu juste à côté de la maison du président à Biarimana, les casques bleus qui étaient à Kigali et au Rwanda dans le cadre de l'application des accords de paix d'Arusha, les casques bleus dirigés par le général Dallaire, lui-même a donc envoyé une section de soldats, c'était des soldats belges, pour aller sur les lieux du crash de l'avion pour, comment dirais-je, protéger le site et préserver, disons, les pièces à conviction.
Pour éviter
qu'on
la retrouve.
Ils se sont fait rejeter par l'armée rwandaise et la garde présidentielle. Alors que nous savons, notamment par des documents publiés par nos députés dans la mission d'information parlementaire de 1998, que des militaires français, notamment le commandant 251 à l'époque, sont allés sur le lieu du crash dans les minutes qui ont suivi, parce qu'ils étaient en garnison dans un camp militaire qui était à quelques 500 mètres de la maison du président à Biarimana. Et Madame Agatha Biarimana, qui est quasiment parisienne, a déclaré dans Jeune Afrique, un numéro de Jeune Afrique qui a été publié vers le 20 avril 1994, que les soldats français avaient trouvé la boîte noire. Et donc, est-ce qu'ils l'ont remise aux autorités rwandaises? C'est possible. Est-ce qu'ils l'ont emmenée tout de suite? C'est possible aussi. Mais on sait aussi qu'un certain colonel rwandais, Frémeroy Balinda, est allé vers au mois de mai à Paris voir le général Huchon à la maison militaire de coopération. Il lui aurait remis aussi des pièces à conviction concernant l'attentat. Et nous sommes certains que les militaires français ont récupéré la boîte noire, et donc l'ont-ils détruite, où est-elle à Paris? Je n'en sais rien. Mais notamment, il y a une commission d'enquête dite Mutsinzi, dont le rapport a été publié il n'y a pas longtemps, qui a donné plusieurs témoignages de gardes présidentielles et d'autres militaires rwandais qui ont vu les soldats français ramasser cette boîte noire. Une précision encore sur la formation du gouvernement intérimaire à l'ambassade de France. C'est l'ambassadeur de France qui le dit à la mission d'information parlementaire en 1998. Et on sait que c'est ce gouvernement dit intérimaire, ou qui était dit le gouvernement des sauveurs, et on dit ça le gouvernement des Abbas-Tabazi, c'est ça?
Oui. Hein?
Eh bien, on sait que c'est lui qui a orchestré le génocide.
Et en parlant de cette charmante Agathe, la dernière demande d'extradition a encore été refusée. Il y a quelques mois.
Je pense que les autorités françaises ont tout intérêt à ce qu'elle reste en France parce qu'elle pourrait être amenée à parler.
C'est ça.
Et là, il faudrait que je reprenne une chose que vous avez dite. C'est vous avez dit un petit cercle d'initiés autour de François Mitterrand est responsable, en fait.
Oui.
Moi, je ne suis pas d'accord sur cette expression. C'est l'État français qui a organisé tout ça et qui a laissé faire tout ça. Parce que l'armée française coopérait avec l'armée rwandaise et avait des instruments sophistiqués. Et notamment les centraux téléphoniques à Kigali, c'était du matériel.
Oui, je voulais juste dire que c'était ce cercle qui avait organisé.
Les téléphoniques étaient sous écoute. Les communications radio étaient aussi sous écoute. Comment les militaires français pouvaient ne pas être au courant de ce projet d'attentat, alors qu'il y avait un militaire français qui était lui-même conseiller du chef d'état-major de l'armée?
Non, mais bien sûr, il y a des anomalies, des coïncidences signifiantes, quoi. Et on revient juste sur l'opération turquoise. En fait, son but a été de créer une sorte de zone humanitaire sûre. Et cette zone humanitaire sûre s'est retrouvée, en fait, être un refuge pour les assassins et un endroit à partir duquel ils pouvaient se replier, principalement vers le Zaïre. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on a donné l'ordre de ne pas montrer les soldats qui ne venaient pas en aide aux victimes.
Ça, c'est vrai parce que la zone humanitaire s'étendait sur à peu près 3 préfectures, Kibuye, Tiangongo, Dikongoro et une partie de Butare. Alors, pour sécuriser, je vais dire, cette zone, il est arrivé que les militaires français sont allés se battre contre les FPR qui avançaient en sauvant les Tutsis le long de ces attaques durant le génocide. Alors, les militaires du Front Patriotique Rwandais ont été obligés de se confronter avec les militaires français pour pouvoir pénétrer dans la zone, mais ce qui a été très difficile, et durant ces combats, il y a eu pas mal de vies humaines qui ont continué à périr dans les préfectures de Kibuye, du Kongoro et Tiangougou.
En fait, ce qui est fou, c'est que la France a continué à maintenir son alliance après avoir préparé l'exécution d'un million de Tutsis. Enfin, je cite juste un exemple, c'est ce refus d'extradition vers la Belgique du cerveau du génocide, Bagosara, qui a été finalement jugé en 2008, mais la France avait refusé de l'extrader aussi.
C'est ça.
Il me semble que c'est une fausse information, ça.
Ah,
Bagosara n'a jamais été en France, que je sache. Il était, sauf erreur de ma part, au Cameroun. Et effectivement, la Belgique voulait le faire comparaître parce que 10 parabelges qui étaient chargés de la protection de la Premier ministre Agathe Uwilingiyimana ont été tués avec la Premier ministre le 7 avril, le lendemain de l'attentat qui a eu lieu le soir du 6 avril vers 20h30. Et il y avait un juge chargé d'enquêter sur la mort de ces 10 ressortissants belges, et ils ont estimé que Bagosara était responsable, et ils ont demandé à ce qu'il soit transféré en Belgique, mais ça a été suspendu parce que le tribunal d'Arusha, le tribunal de l'ONU chargé de juger des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité commis au Rwanda, il a fini par se mettre en route et il a fait arrêter Bagosara. Et donc, il y a une sorte de primauté du tribunal international de l'ONU sur les juridictions locales. C'est comme ça que Bagosara a été jugé et condamné, c'est en appel actuellement. Mais notamment, il a été condamné il a été jugé responsable de la mort de Agathe Uwilingiyimana et d'autres ministres qui se trouvaient être Hutus, mais qui étaient partisans des accords de paix, accords de paix qui réintroduisaient les Tutsis dans la communauté nationale, disons, et donnaient 5 portefeuilles ministériels au FPR, qui représentaient des Tutsis, mais aussi des opposants au régime dictatorial d'Habyarimana. Et ces accords donnaient aussi, mélangeaient les deux armées et donnaient, par exemple, 50% des postes d'officiers à des officiers du FPR.
Désolé de mon imprécision, mais c'est vrai que c'est assez compliqué comme dossier, donc voilà, pardon. Maintenant, je voudrais qu'on parle de l'utilisation, en fait, de ce qu'on appelle le domaine réservé de l'État. Alors, on sait que sous la Ve République, les opérations militaires sont secrètes. Normalement, les opérations humanitaires ne devraient pas l'être, mais il se trouve que celle-ci l'a été. Et est-ce qu'on peut pas dire que cette planification, en fait, elle résulte d'un calcul géopolitique pour sauver les restes de l'Empire français dans leur zone d'influence? Est-ce qu'ils n'avaient pas peur d'une remise en cause de cette zone néocoloniale par les USA et la Grande-Bretagne?
Oui, je suis assez d'accord sur votre analyse, mais il y a quelques petites erreurs de détail.
On ne
peut pas parler de reste de l'Empire français pour le Rwanda, puisque c'était une colonie belge.
Oui, bien sûr.
Mais
non.
Il se trouve que...
Je ne vais pas avoir mon bac à la fin.
D'une part, il n'y a pas eu arrêt de la colonisation en 1962, comme la propagande l'a fait croire, comme le monde diplomatique le répand, etc. En fait, il y a eu un changement de système de domination, mais il y a toujours eu domination de sur les anciennes colonies. Je ne vous raconte pas l'histoire de la Guinée, l'histoire de de Thomas Sankara, etc. Mais... d'après ce qu'on voit pour le Rwanda, il y a expansion en fait du domaine, alors ne disons pas colonial, mais du domaine sous domination française, et il y a un objectif bien clair qui n'est jamais rappelé, mais que l'on voit sous De Gaulle et Focard, c'est de prendre le contrôle des anciennes colonies belges. Oui. Parce que la France s'est fait, on peut dire grossièrement, lourder à la conférence de Berlin de 1885 par ce fichu roi Léopold II qui s'est fait attribuer par un micmac extrêmement astucieux cet immense Congo qui renferme, comme vous le savez, des ressources minières extrêmement importantes, pour ne parler que de l'uranium qui a servi aux Américains à faire les bombes qui ont explosé au Japon. Ouais.
Mais à ce propos, c'est vrai que le Rwanda n'appartenait pas à l'Empire colonial français, mais quand il y a eu la question posée à l'ONU après l'assassinat des 10 soldats belges et qu'il était décidé de une réduction des forces de l'ONU à ce moment-là au Rwanda, et qu'il y a eu les débats qui ont suivi, il y a eu une déclaration très claire de Mme Albright qui a dit le Rwanda n'est pas une zone d'intérêt pour les États-Unis. Donc on ne s'en occupe pas. Hein. Ouais. Mais la France, elle, a dit oui, mais pour nous, elle l'est. D'où l'opération. Donc c'est quand même aussi une affaire bien française que l'intervention. Hein. C'est bien que c'était pas une colonie historique.
Je suis d'accord, mais il faut noter que la France a aussi voté la réduction.
Oui, elle a voté la réduction, mais parce qu'elle voulait l'opération turquoise.
Peut-être, mais oui. Enfin, pour moi, elle voulait surtout donner, à l'époque, là, on est au 21 avril, lors de ce vote, elle voulait laisser carte blanche aux tueurs. Oui. Parce que les grands massacres, les énormes massacres qui ont eu lieu dans les églises, etc., comme dans la région de Gikongoro, par exemple, l'école de technique de Murambi, c'est le 21 avril. Précisément le jour du vote de cette résolution. On peut dire, pour fixer un peu les idées, que le Congo le Congo ex-Zaïre, où il y a tellement de richesses, c'est un pays enclavé et il faut pouvoir évacuer toutes ces ressources minières et tous les pays qui sont à l'est sont vraiment assez intéressants de ce point de vue-là, l'Ouganda, Rwanda, Burundi, etc. Et vous voyez tous les troubles qu'il y a au Rwanda ou au Burundi. Et si vous voyez tous les troubles qu'il y a et les assassinats, vous voyez qu'il y a une main européenne
très forte,
et évidente. Quoi. Bon, il y a aussi un petit fait, c'est qu'il fait un climat absolument délicieux pour l'Européen.
Je pense que ça compte bien sûr.
En ce sens-là, on peut dire que ce qui s'est passé, c'est pas une guerre au tout-tout-si, c'est une guerre entre Européens, entre Allemands et Belges et Anglais et Belges et
Français. Oui. Et en fait, pour préciser le fait que effectivement, des intérêts économiques majeurs sont en jeu. C'est que lors de la dernière visite de Kagame le mois dernier, ou il y a 2 mois, en France, il n'a absolument pas évoqué la question des responsabilités françaises. Il a juste parlé en termes de marché et de business à faire, mais il n'a absolument pas, prétexte de réconciliation, entamé la question des responsabilités.
Bon, c'est ce que j'ai entendu moi aussi. Et peut-être qu'il a jugé bon qu'il y ait une coopération au niveau économique.
Oh, il a dû juger bon, oui.
Mais laisser la justice l'autre côté.
Enfin, ce qu'il faut relever, c'est qu'il n'a rien retiré des accusations.
Absolument, absolument.
Qui ont été mises par écrit dans le rapport de la commission Moucho.
En fait, on est dans un système de politique de mensonges d'État. Depuis le début. Et là, j'ai envie de citer cette phrase de François Mitterrand. Alors, c'est une phrase en off qui n'est peut-être pas exacte, mais le sens est là, et je pense que Jacques pourra nous la préciser. Mitterrand a quand même dit à son fils, dans ces pays-là, un génocide, ça n'est pas trop important. Suite à ça, Balladur et Juppé reçoivent les assassins en prétendant qu'aucune balle française n'aurait été tirée. Et on peut dire que la France est en infraction totale avec le droit international, puisque le droit international prévoit, oblige même à prévenir et à réprimer les crimes de génocide. Or, ce qui se passait au Rwanda a été qualifié dès le 28 juin par l'ONU de génocide. Donc c'est on dit pas bafouement, mais la France a à nouveau bafoué le droit international.
En évoquant du reste le droit d'ingérence humanitaire, que la résolution soit adoptée.
C'est
le droit d'ingérence humanitaire et à la fois l'article 7 de la Constitution qui permet d'intervenir, de la Charte des droits de l'homme, qui permet d'intervenir s'il y a menace pour la paix.
Enfin, nous avons des diplomates merveilleux. Ils ont agi. C'est une belle œuvre d'art, cette résolution autorisant l'opération turquoise. Parce que si vous regardez le texte, vous voyez que, alors que la France oralement a dit qu'elle intervenait à cause du génocide, le mot génocide n'est pas cité.
Non,
et on utilise ces mots hyper flous comme humanitaire, hein, et population en danger. Et donc, l'armée française, parce qu'il s'agissait essentiellement à 95% d'une opération militaire, était autorisée par cette résolution à protéger aussi bien les Hutus que les Tutsis. Et parmi les Hutus, vous aviez énormément de tueurs. Hein, vous avez eu plus d'un million de tueurs au Rwanda, et qui étaient dans cette masse Hutu. Et là où on peut dire que, aussi, que la France n'a pas respecté cette résolution, c'est qu'elle n'aurait jamais dû accepter, laisser faire cette fuite vers le Congo, le Zaïre, parce que des populations qui ne vivent que de leurs champs de bananes, de manioc, il sait mieux que moi de quoi vivent les gens, ils n'avaient aucun argent. Aller à Goma avec une terre volcanique, c'était les condamnés à mort et à la famine. C'était évident. Pour fixer les choses, hein, nous avons un certain nombre de documents provenant d'archives de l'Élysée. On ne sait pas trop comment ça nous est parvenu, là on voit une note Reuters du 15 juillet qui dit que les membres du gouvernement intérimaire rwandais, on le sait à l'époque, responsable de l'organisation du génocide, seront mis aux arrêts s'ils tombent aux mains des soldats français dans la zone humanitaire turquoise. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette note en manuscrit de la main de Hubert Védrine? Lecture du président, ce n'est pas ce qui a été dit chez le Premier ministre Édouard Balladur. Et résultat, les membres du gouvernement intérimaire, les ministres, n'ont pas été arrêtés. On sait très bien que le président Théodore Sidney Kouboabo est passé par Tchangougou et il a été exfiltré par les légionnaires commandés par le colonel Ogar et sur l'ordre de l'Élysée.
Même les militaires des forces armées rwandaises qui passaient par la zone turquoise n'ont pas été arrêtés.
Ouais.
Vous les voyez passer sans problème.
C'est ça.
Au vie aussi des militaires français de la zone turquoise.
Et en fait, c'est pas pour faire du sensationnel, mais c'est vrai qu'il y a eu des scènes d'horreur terribles, parce qu'on parle du génocide, c'est un mot maintenant, mais c'est vrai qu'il faut voir la réalité des faits. Il y a eu des scènes d'horreur. Les Tutsis étaient armés de bâtons qui leur étaient arrachés des mains, et les meurtriers étaient eux munis d'armes à feu. Et on a assisté à une véritable épuration ethnique et à un flicage racial. Et ce flicage racial, il a été permis parce que c'est la France qui a informatisé les fichiers. Et à ce propos, puisqu'on parle de Mitterrand, je voulais rappeler quand même que c'était l'ami de Bousquet, qui a été secrétaire général de la police de Vichy, donc un peu coutumier du fait. Et Mitterrand, c'est aussi celui qui a été témoin au procès de Salan pendant la guerre d'Algérie, qui avait quand même des amitiés cagoulardes. Donc voilà, finalement, les choses ne sont pas si surprenantes.
Oui, mais là, il est bien connu qu'ils étaient grands amis, et je pense que M. Bousquet a permis à M. Mitterrand de remporter un certain nombre d'élections en les finançant. Mais je crois pouvoir dire que s'ils avaient la même idéologie, puisqu'ils se sont connus à Vichy, M. Mitterrand a tout de même fait beaucoup mieux que M. Bousquet. M. Bousquet, il y a combien de Juifs qui ont été envoyés en vacances à l'Est? Il y en a combien qui sont revenus? Enfin, je crois qu'il y en a quelque chose comme 75 000 Juifs qui ne sont pas revenus.
C'est ce que j'allais dire.
Et M. Mitterrand... j'avais partagé moitié-moitié entre Mitterrand et Bagosora. J'avais dit qu'il était responsable de la mort de 500 000 personnes. Mais je crois qu'on peut dire 1 million. Parce que...
1 million, et dans un
la
temps
France
record.
La France avait un ascendant absolument terrible. Et notamment, il faut dire que Bagosora a suivi des cours à l'école de guerre ici à Paris.
Oui. Ah oui, la France a formé. Oui, elle n'a pas fait que systématiser, elle a aussi formé.
Il a formé les militaires et aussi que les miliciens.
Oui.
On les voit dans certains documentaires.
On fait une courte pause musicale avant d'aborder l'expérience précise qu'a vécu Eric avec la finalisation de la solution finale, si on peut dire. On va écouter un morceau d'Afrobeat.
vient d'écouter le morceau.
Sortir du colonialisme, on parle du Rwanda et on en parle avec Eric qui est donc un survivant du massacre de Bisesero. Eric, est-ce que tu peux te présenter? Vous pouvez, pardon, vous présenter, nous dire quel âge vous aviez quand ça s'est passé et exactement relater les événements tels qu'ils se sont produits, c'est-à-dire vous entendez parler de l'opération turquoise et vous rencontrez sur la route des militaires.
Bon, en 1994, j'avais 28 ans.
Vous étiez
puisque je
enseignant.
Suis né en 1966, j'étais enseignant à une école primaire du village. Dès que l'avion de Habyarimana a fait tomber, nous étions au village comme d'habitude. Et la radio nous a dit que, nous avons appris par la radio qu'il faut rester à la maison, pas de groupement. Et nous avons obéi à l'ordre de l'État. Le 7, ça a été ainsi, le 8, on a commencé à voir des attaques dans des villages voisins du nôtre, des maisons qui se faisaient brûler, et des cris des hommes qui fouillaient. Alors nous nous sommes organisés pour attaquer ces attaques qui allaient nous menacer, puisque notre village était peuplé de Tutsi presque à 90%. Alors, nous avons pu repousser à plusieurs reprises des attaques qui voulaient envahir notre village. Le même jeu s'est répété jusqu'au 13 avril 1994, où nous avons été attaqués par des hommes en grand nombre mieux armés que nous, qui portaient des armes à feu. Il y avait des militaires, il y avait des policiers communaux, des miliciens, qui avaient des fusils, des grenades, et ils étaient plus nombreux que nous. Nous avons été obligés de quitter le village puisque nous étions vaincus. Ce jour-là, le 13 avril, nous avons perdu 4 personnes, ou 3, je ne me rappelle pas très bien. Nos biens ont été pillés, les vaches volées, les maisons brûlées où on a levé les tôles sur les toits. Alors nous avons été obligés de regagner la grande région Tutsi de Bisesero. C'est une région qui s'étend sur 3 secteurs administratifs. C'est vaste. Alors arrivé là-bas, nous nous sommes organisés pour essayer de lutter contre les envahisseurs qui nous attaquent chaque jour, venant de toutes les directions de la région. Nous avons pu tenir jusqu'au 13 mai 1994. C'est là où nous avons subi des attaques de grandes envergures avec des militaires, des gendarmes, des municiers qui viennent de tout. De partout, de Gisenyi, de Gikongoro, de Cyangugu, de Ruhengeri et de Kibuye, bien entendu.
Et la propagande était de faire croire que les survivants étaient attaqués par des éléments du Front Patriotique, en fait.
Oui, c'est ce qu'il disait. Il disait que c'est le Front Patriotique rwandais qui est dans la région de Bisesero, que même son drapeau est hissé là-bas.
Qui s'était infiltré dans le projet de couper le pays en deux.
Ouais,
en
fait, c'est ce qu'il disait. Alors, c'est pourquoi il y a eu beaucoup d'attaques et beaucoup de tueries. En date du 13 mai, nous avons perdu plus de à peu près 30 000 personnes ce jour-là. Le 14, la même chose. Je dirais aussi, avant de continuer, je dirais que dès le 1er mai jusqu'au 12, il n'y a pas eu d'attaque. Nous croyons que les tueries allaient s'arrêter. Les Tutsis commençaient à vaquer à les occupations. Ils avaient commencé à cultiver la patate douce parce que c'était la période. Durant les 2 semaines. Et le 13, nous avons été surpris par des attaques dont je parlais. Il y a eu beaucoup de pertes de vies humaines, comme je le disais. Il a été de même le 14 mai. Et après, nous avons été obligés de changer de tactique pour pouvoir survivre. Au lieu de mener des attaques, de faire face aux tueurs pour essayer de résister, on devrait se cacher ou courir dans les montagnes.
Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous faisiez face aux tueurs? Quelle était votre tactique?
Quand on était encerclé, il n'y avait pas où aller. On était obligé de se mêler aux tueurs, de combattre corps à corps. S'il tire, il tire son au lieu de tirer sur l'adversaire, il tire à une personne de son équipe. Oui. Il voit que ce n'est pas possible, il se retire. Comme ça, nous trouvons une échappatoire où on pouvait aller sur notre colline, ainsi de suite.
Pour pouvoir attaquer,
puisqu'on n'avait pas d'armes, on devrait...
Et vous étiez main nue, vous étiez vraiment main nue, bien sûr.
Quelques lances, les bâtons, puisque la population Tutsi se sont délevés, ils portaient toujours les bâtons. On devrait se placer en haut de la colline. On ramassait des cailloux. Les personnes qui sont assez fortes devraient lancer les cailloux et les pierres ramassées par les jeunes filles et les jeunes mamans qui en étaient capables, qui étaient derrière. On faisait ainsi, tout en recevant des balles, bien entendu. Il y avait des morts et on continuait à lancer les pierres, à lancer. Épuisé, on devrait se mêler pour pouvoir chercher un échappatoire.
À pouvoir sortir. En fait, les militaires qui étaient venus dans la région, en fait, ils étaient venus en mission de reconnaissance pour voir s'il restait des Tutsis à massacrer.
Vous parlez du 27 juin. Oui.
Donc, au 27 juin, par la radio RFI, j'ai su qu'il y a il y a une mission française humanitaire qui allait venir au Rwanda. Alors je me suis dit, il faut que je sois attentif pour voir si c'est vrai ou pas.
C'était l'opération turquoise.
Oui, c'était l'opération turquoise. Alors, le 27, dans l'après-midi, j'ai vu des hélicoptères atterrir en barrière des montagnes de Bisesero à Djihita. Quelques minutes après, j'ai vu un convoi de camions monter vers les montagnes de Bisesero. Alors je me suis dit, ça doit être la mission turquoise qui vient s'installer. Alors je me suis approché de la route, tout en guettant si ce sont des blancs ou des noirs, je ne sais pas. Alors j'ai pu voir que c'était des militaires français. Alors je me suis approché de la route et j'ai crié à haute voix, j'ai entendu dire que vous venez pour nous sauver, nous sommes en danger, il y a des morts partout, vous avez vu. Prière de vous arrêter et de nous protéger. Alors, ils n'ont pas voulu directement me croire parce qu'ils avaient notre guide, un milicien, qui les conduisait ailleurs, je ne sais pas où. J'ai crié à haute voix et j'ai été obligé de me placer devant eux pour les faire arrêter. Ils ont fini par s'arrêter. Je leur ai raconté n'importe quoi que je pouvais. Je leur ai dit non, vous voyez, nous sommes menacés. Il y a des tueries chaque jour. Vous voyez les cadavres qui saignent encore là, qui sont tués par barre, par machette. Ils ont dit non, c'est pas possible. Est-ce que des hommes armés peuvent attaquer des civils? J'ai dit, venez et voyez. Il n'y a rien à cacher ou à mentir. Alors, comme mes collègues commençaient à voir que je n'étais pas en danger, ils commençaient à venir un à un. J'ai dit, amenez quelques cadavres là pour convaincre que ce que je dis est vrai. Nous avons dit, amenez des cadavres. Ils ont fini par me croire. Alors, ils m'ont dit, mon cher ami, nous ne sommes pas prêts pour vous sauver aujourd'hui. Nous ne sommes pas prêts, restez dans vos cachettes, on viendra dans 3 jours. Nous avons insisté, leur disant que nous sommes en danger parce que les miliciens étaient sur les collines environnantes et voyant ce qui se passait, qu'il y avait encore des Tutsis à tuer. Si vous partez, nous serons tous exterminés. Ils ont fini par retourner à Djihita ou à Kibuye, je ne sais pas. C'était le 27 au soir, le 28. Nous avons connu des attaques, comme d'habitude, le 28, le 29, le 30. Et le 30, dans la soirée, nous avons vu les militaires français de retour. Ils nous ont rassemblés sur une colline. Ils m'ont demandé, parce que c'est moi qui parlais français, il faut que vous choisissiez parmi les blessés ceux qui sont gravement malades. Et nous avons les évacués par hélicoptère à Goma, au Zaïre à l'époque. Et c'est ce que nous avons fait. Ce qui restait ont été soignés là parce qu'ils avaient un clinique mobile là-bas. D'autres ont été transférés au camp de Nyarushishi à Kyangugu, plus à l'ouest. Et nous avons passé à peu près un mois avec eux à Bisesero.
C'est-à-dire, voilà, je rappelle quand même que c'était une situation d'urgence et qu'ils ont quand même mis 3 jours, enfin ils vous ont dit planquez-vous pendant 3 jours, ce qui est quand même ce qui paraît hallucinant. Et on peut se demander, et donc je vous pose la question, est-ce qu'il y aurait eu un accord entre les militaires et le préfet de la région pour l'extermination des Tutsis?
Bon, je sais pas s'il y a eu accord ou pas, mais moi ce qui m'a trop choqué, c'est qu'ils nous ont laissé ainsi.
Avec la situation qui a empiré,
nous leur avons demandé, si vous n'êtes pas sûr de cette région, il faut nous amener à Kibuye ou à Gishita où vous êtes sûr de la sécurité. Ils ont dit non, c'est pas possible. Vous n'allez pas tenir avec nos 4 ou 5 véhicules. Nous, nous avons dit, mettez-nous devant, nous allons piétiner comme d'habitude pour que notre vie soit protégée. Ils ont dit non, carrément, nous rentrons, nous viendrons dans 3 jours.
Et je rappelle que le code pénal oblige les militaires à la désobéissance en cas de génocide. Et là, le génocide était avéré. Et est-ce que des militaires ont vraiment désobéi ou peut-être juste simplement traîné les pieds pour faire leur boulot, quoi?
Désobéir, c'est-à-dire
refuser.
Ils ont refusé de nous protéger?
Non, refuser de laisser les massacres se perpétrer.
Ils ont désobéi et tout le monde a désobéi. Ce ne sont pas les militaires, c'est même la communauté internationale. Vous voyez qu'il y avait un génocide qui se faisait au Rwanda. Je crois qu'en 2004, j'ai été invité aux Nations Unies pour aller témoigner. Il y avait une conférence qui portait sur la non-assistance en cas de catastrophe. Qu'il ne faut pas qu'il y ait une résolution des Nations Unies pour qu'un État puisse aller stopper des massacres où un pays n'a pas pu sauvegarder la sécurité de sa population. Donc, que ce soit les militaires français, que ce soit la communauté internationale, chacun a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé au Rwanda.
Il y a des choses extrêmement précises. Le génocide avait été reconnu par le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme de l'ONU le 28 juin. La France est intervenant sous chapitre 7 dans le cadre de l'opération turquoise et signataire de cette convention de 1948 pour la prévention et la répression du génocide. Convention qui était signée à Paris au palais de Chaillot en 1948. La France devait d'intervenir et arrêter notamment les présumés génocidaires et puis porter secours. Or, là, précisément, est-ce qu'il y a eu entente entre les militaires français et le préfet de Kibuye? C'est probable, nous n'en avons pas de preuves, mais le colonel Rosier est venu le 26 juin, donc la veille de la rencontre, là. Et probablement, il a parlé au préfet de Kibuye, lui accordant un délai pour terminer, disons, l'opération de nettoyage. Nous avons un document beaucoup plus précis, c'est un compte-rendu de rencontre entre le colonel Rosier et deux ministres, le ministre des Affaires étrangères, Bicha Mumpaka, et puis le ministre de la Défense, qui s'appelle Augustin Bizimana. Non, ça c'est le chef d'état-major, Bizimungu. Bizimana, c'est un ministre qui est encore en fuite, qui n'est toujours pas arrêté. Et qu'est-ce que écrit le colonel Rosier, qui commandait les opérations spéciales, le commandant des opérations spéciales à sa hiérarchie? Il dit que politiquement, la situation est très bonne pour le gouvernement intérimaire parce que tous les opposants ont été écartés. Enfin bon, éliminé. Mais il y a qu'un problème, c'est la situation militaire. Mais les Rwandais comptent bien à ce que l'armée française rétablisse la situation militaire. Et notamment, il y avait un stratagème qui n'a pas marché, mais un stratagème humanitaire qui a été préparé. C'était d'envoyer Bernard Kouchner au général Dallaire pour lui dire il y a encore des orphelins à Kigali, il faut que vous demandiez aux parafrançais de venir protéger ces orphelins à Kigali, et ça aurait permis donc à l'armée française d'être à Kigali au moment où la ville allait être prise pour le FPR, et donc le FPR n'aurait pas pu prendre la ville à moins de rentrer de combattre un membre permanent du Conseil de sécurité, et ça aurait permis au gouvernement intérimaire de se maintenir.
Et une question peut-être plus personnelle, l'évacuation des rescapés, elle s'est passée comment? Comment ont été traités les rescapés? Et surtout, comment est-ce que les gens ont réussi à se reconstruire ou pas après?
L'évacuation des rescapés dans la zone turquoise, vers la zone contrôlée par le FPR, se faisait par camion et c'est moi qui devrais m'en occuper parce que je parvenais à communiquer avec les militaires français. Et c'est pourquoi j'ai resté à Cicero jusqu'au dernier convoi. Donc, pour la première fois, en évacuant les Tutsis, les rescapés, il y avait de petits accrochages avec les Hutus qui se trouvaient sur la route. Et c'est pourquoi on a été obligé de couvrir les camions avec les tentes jusqu'à la région du FPR. Vous dites le rétablissement ou la reconstruction. Nous avons été complètement démolis, voire avoir perdu toute la famille. Il y a des gens qui ne parviennent même pas aujourd'hui à supporter la vie. Il y a des traumatisés encore. Il y a ceux qui ont essayé de se rétablir. Il y a des jeunes gens qui viennent de terminer les universités, qui commencent à mener leur propre vie.
Il y a des gens qui ont été amputés de façon abusive pendant leur sauvetage en plus.
Donc bon, c'est ce que j'ai entendu dire qu'est arrivé à Goma, au Zaïre à l'époque. Les médecins préféraient amputer les membres qui pourrissaient, au lieu de soigner les plaies, c'est ce que j'ai entendu dire. Il y a des malades qui fuyaient l'hôpital pour ne pas se faire amputer. Et ils se portaient bien aujourd'hui pour ce qui est de la reconstitution morale, physique.
Le traumatisme est là et c'est quelque chose qui fait partie de là.
Même s'il y a des services qui s'en occupent, ça n'aboutit pas.
Mais ça ne peut pas.
Est-ce qu'il n'y a pas des rescapés qui ont été assassinés après le génocide?
Oh, il y a eu pas mal de rescapés qui ont été tués après le génocide par les infiltrés qui venaient du Congo. Mmh. J'ai perdu 4 cousins qui étaient restés, qui étaient rescapés. Et qui avaient gagné leur village, ils ont été tués par des...
C'est tellement monstrueux qu'on a même pas envie de chercher un mot pour qualifier ce qui s'est passé. Quoi. C'est au-delà de l'horreur, vraiment au-delà de l'horreur. Et tout ça dans un silence, une sorte de conspiration du silence. La mission parlementaire, alors il était totalement impossible de ne pas savoir ce qui se passait. Elle s'est tue complètement, elle a refusé d'auditionner des témoins. Léotard, à l'époque, avait même empêché qu'on porte secours aux victimes.
Okay.
Ouais, mais c'est... la France a réussi à gérer les assassins.
C'est affreux et c'est incompréhensible.
C'est vrai.
Oui.
Enfin, François Léotard, ministre de la Défense, était à Guichita le 29 juin. Et il y a des journalistes, Raymond Bonner du New York Times et Sam Killey du Times, qui lui ont demandé explicitement d'aller porter secours, d'envoyer des soldats pour porter secours aux 2000 Tutsis qui étaient là-haut à Bicizéro. Ils en avaient vu.
2000 sur les 80 000 de... De la ville à peu près.
Enfin, 80 000, bon, je sais pas, 60 000 peut-être. Mais Léotard a dit qu'il n'avait pas assez de troupes, alors qu'il y avait des troupes, là, à Guichita, qui étaient super armées, et devant les soldats rwandais qui n'avaient plus guère envie de se battre, sauf devant des Tutsis désarmés, enfin, qui n'avaient pas envie d'affronter les troupes du FPR. Et des miliciens, les militaires français, ils avaient tous les moyens pour les protéger, mais Léotard a interpellé les journalistes anglo-saxons en disant que font leur pays. Et le responsable militaire, la Marin Gillier, qui commandait le commando Trépel, là, reçut l'ordre d'aller voir un prêtre français, Mandiondo, qui se trouvait à 30 km de là. Et ils sont passés le matin à Bicicero sans porter secours aux Tutsis. Mais il se trouve qu'il y a des journalistes qui sont venus, notamment guidés par Sam Killey. Michel Perard. Mais il y a une équipe de France 2, de Philippe Boisserie, qui suivait le convoi de Marin Gillier, mais qui l'a perdu. Et ils sont tombés sur les Tutsis et fait très intéressant, notamment au niveau de la justice, parce que c'est une affaire qui va en justice. Eric, ici présent, a été interviewé par Philippe Boisserie et l'émission est passée le soir du 30 juin sur France 2.
Et puis je me rappelle que j'ai rencontré des journalistes le 30 avant que les militaires français ne reviennent. Ils avaient un jeep rouge, si je me rappelle bien. Et il m'avait demandé de ne pas m'aller me cacher trop loin. Quand je vois des journalistes, il faut que je vienne leur expliquer ce qui se passait.
Et vous parliez.
Et j'ai cru que c'est à cause de ces journalistes que les militaires français sont revenus. C'est ce que je pense, moi, personnellement.
Oui. Et ce que je voulais dire, c'est que maintenant, enfin, il y a eu le week-end dernier un colloque, justement, qui parle de faits nouveaux dans ce qu'on peut savoir sur le génocide, des rapports d'enquête, des travaux universitaires. Est-ce qu'on peut envisager, d'une part, des suites judiciaires pour empêcher la France de s'exonérer de ses responsabilités dans cette extermination mise en œuvre par l'appareil d'État? Et comment est-ce qu'on peut envisager les rapports entre la France et le Rwanda maintenant?
Vous parlez de faits nouveaux, il y en a notamment qu'on a retrouvé dans les archives INA, c'est que le soir du 27, donc le soir de la rencontre d'Eric avec ce détachement là commandé par le lieutenant-colonel Duval, là c'était des commandos de l'air qui faisaient partie du commandement des opérations spéciales, Duval alias Diego, eh bien le soir même, il y a un journaliste, Benoît Ducane, qui transmet les propos de ce colonel Rosier depuis Bukavu, qui dit que il y a eu des affrontements à 20 km de Kibouye, ce qui correspond tout à fait à Bicécéro, et des affrontements entre l'armée gouvernementale rwandaise et la pointe avancée du FPR, des combattants FPR, qui sont en train de couper en deux la zone gouvernementale. Mais il dit, ça demande des vérifications, il met ça au conditionnel, mais ils vont répéter ça pendant 3 jours, cette information, laissant entendre à l'opinion internationale que le FPR est parvenu dans la région et va couper en deux cette zone gouvernementale. Alors que le FPR, à ce moment-là, il essaie de prendre Kigali, il n'a toujours pas pris Kigali, et il marche sur Butare. En gros, il contrôle l'est du Rwanda, mais le FPR n'est jamais venu dans la zone turquoise. Hein. Et dans cette zone turquoise, les massacres ont continué dans cette zone humanitaire sûre. Les massacres ont continué, certes à petite cadence, si je puis dire. Parce que pourquoi? Parce qu'il y avait quasiment plus.
Il y avait presque personne.
Plus de tout s'y a tué.
Et c'est ça.
Et les rapports maintenant France-Rwanda, on peut dire. On peut en dire un mot?
Les relations diplomatiques sont rétablies, mais voilà. Là, aux dernières nouvelles, vous avez pu constater que l'ambassadeur, M. Contini, a été rappelé par M. Juppé. Il me semble que l'ambassadeur Contini était apprécié du côté de Kigali. En tout cas, il ne fait pas de doute qu'il y ait une énorme responsabilité du côté de M. Mitterrand et de son entourage. Oui. Et bon, les textes montrent aussi que ça ne permet pas d'exempter aussi le gouvernement de droite de Balladur, etc.
C'est ça.
Bon.
C'est que les
comme vous avez dit, ils ont reçu le 27 avril le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Le 27 avril, c'est en plein dans la période de grands massacres. Et quand Kouchner vient à Kigali vers au mois de mai, là, oui, eh bien, oui, notamment, enfin, entre quelque chose comme le 12 et le 15 mai, hein, pour faire évacuer des orphelins et les emmener en France, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il y a cette grande attaque à Bicécéro, les 13-14 mai. Et le 15 mai, Kouchner est discuté avec le gouvernement intérimaire rwandais. Il avait été accompagné depuis Kigali par le colonel Bagosora, entre autres, à l'aller et au retour.
Donc on se rend compte que c'est effectivement une affaire qui a été planifiée et dont les conséquences sont encore actuelles. Je suis désolée, j'aurais aimé parler encore des heures avec vous parce qu'on n'a évidemment pas épuisé la question, mais on y reviendra. Merci à tous les deux d'avoir participé à notre émission et respect pour Eric parce que, enfin, moi, ça m'a... Voilà. Bon, j'ai eu beaucoup de mal en préparant l'émission, je ne vous le cache pas. On va écouter, avant de passer aux chroniques de Nils et de Roxana, un morceau. Alors, on dit « plus jamais ça », et non, c'est pas vrai. Enfin, faut arrêter de croire que « plus jamais ça ». Et le projet génocidaire, c'est toujours une abomination, quelles qu'en soient les victimes. Et on va écouter un morceau de musique klezmer par David Krakauer. sortir du colonialisme, de retour sur Radio Libertaire 89.4. Et je passe la parole à Nils, que vous avez entendu intervenir avec brio tout au long de l'émission.
Oui, bonjour Gisèle, bonjour Sana, bonjour tout le monde. Anticolonialiste, bonjour également. Le colonialisme et le néocolonialisme ont-ils des frontières? Celles-ci se limitent-elles au continent africain et asiatique, aux Amériques centrales et du Sud, aux îles du Pacifique? Un caractère essentiel du colonialisme est l'accaparement du pouvoir par les colons ou la soumission du peuple colonisé aux règles et au pouvoir colonial. N'est-ce pas aujourd'hui la situation de la Grèce, où le gouvernement était imposé par les marchés, les agences de notation, Merkel, Sarkozy et Obama réunis? Un caractère essentiel du néocolonialisme est l'exploitation et le bradage du patrimoine et des ressources nationales. N'est-ce pas ce qui est exigé aujourd'hui à la Grèce, du port du Pirée à l'Acropole? Hasard des lectures, j'ai retrouvé une lettre de Grèce publiée en 1962 dans la revue Partisan. Lettre écrite quelques semaines après la signature, le 9 juillet 1961, de la Convention d'Athènes par laquelle la Grèce a été associée au marché commun, il y a donc 50 ans. Gerolimatos, l'auteur de cette lettre, écrit « Que connaissez-vous de la Grèce ? La Grèce actuelle, cela ne veut pas dire grand-chose. Vous l'avez peut-être visité pendant les vacances, le pittoresque, le soleil, la mer, des gens accueillants. Ce peuple a pourtant faim. Ce peuple n'a pas de travail. Connaissez-vous le nombre de Grecs qui travaillent en Allemagne ? La Grèce, pays exportateur de manœuvre au sein du marché commun. Il faut que vous sachiez pourtant ce qui se passe en Grèce, un pays où le pouvoir n'est pas dans les mains d'une bourgeoisie nationale, où les gouvernements depuis longtemps ne sont que des marionnettes, entre les mains des impérialistes, un théâtre d'ombre un peu sinistre. L'intervention des Britanniques à la fin de la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile qu'ils provoquèrent interrompirent la marche du pays vers la démocratie et la justice sociale. Il s'agissait d'empêcher la constitution d'une économie indépendante répondant aux intérêts du peuple et du pays. L'opération réussit. Puis après, les États-Unis imposèrent en Grèce leur occupation économique et politique, connue sous le nom d'aide. La Grèce doit être le bastion de l'Occident dans les Balkans. Avant de reprendre la lecture de la lettre de Gerolimatos, il faut rappeler que les Balkans sont cette partie de l'Europe dont les frontières furent dessinées en 1912 lors de la conférence de Londres, au gré de leurs intérêts impérialistes par les puissances d'alors, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, l'Italie et le Royaume-Uni et la Russie. Elles en ont décidé avec le même arbitraire et le même mépris des peuples qui y habitent et de leur histoire qu'elles ont tracé au cordeau les frontières de l'Afrique lors du partage colonial. J'en reviens à la lettre de Gerolimatos. La récente admission de la Grèce au marché commun, nous sommes, je le rappelle, en 1961, les traités économiques germano-grecs sont de nouveaux pas vers la suggestion totale de la Grèce au monopole des États-Unis et européens. Opération désastreuse pour la classe ouvrière, la paysannerie, les artisans et les classes moyennes. La politique menée revient à conserver le caractère arriéré de la propriété rurale, à ne pas industrialiser le pays, à en faire une base de l'OTAN, politique dont l'une des conséquences inéluctables est l'alourdissement de la dette. La Grèce reste donc un pays sous-développé, aux mains d'une classe parasitaire et arriérée, soumise aux monopoles étrangers. La Grèce est moins indépendante que jamais. Sa liberté aussi problématique que sous la dictature fasciste de Metaxas, nous signalons ces détails, puisque la Grèce, au lieu des Occidentaux, se signale par son indépendance et sa liberté. Quel est le vrai visage de cette indépendance et de cette liberté? Pour imposer sa politique antinationale et antipopulaire, le gouvernement, avec le soutien de ses tuteurs étrangers, a transformé la Grèce en un État policier. Pour contenir le mécontentement populaire, le gouvernement encourage la formation d'organisations fascistes capables d'exercer une action terroriste. Il remet à l'honneur les tribunaux militaires, jugule la presse. Cette fascisation du régime tributaire de l'Occident n'est pas une preuve de sa force, mais de sa crainte de l'opposition du peuple. Écrivant ceci, Gerolimatos n'est en rien un prophète, mais un analyste lucide. L'histoire à venir de la Grèce va le démontrer. La Grèce, bastion de l'Occident dans les Balkans, exportatrice de main-d'œuvre vers les pays du marché commun, dominée par des intérêts états-uniens et européens, déjà lourdement endettée, crainte de l'opposition, crainte du peuple, la voie est ouverte à un pouvoir fort. En 1963, complicité de l'armée, de la police et des groupes fascistes, le député pacifiste Grégoris Lambrakis est assassiné. En 1967, avec le soutien de la CIA, un putsch militaire instaure la dictature des colonels. Les manifestations étudiantes et populaires vont amener en 1974 la chute de la dictature. Mais toujours assujetti au monopole des États-Unis et de l'Europe, dès lors vont se succéder des gouvernements héréditaires, avec à leur tête Konstantinos Karamanlis ou Andreas Papandreou, Kostas Karamanlis ou Georgios Papandreou. La Grèce entre dans le marché commun en 1991, adhère à la zone euro en 2001, prise dans les griffes de la concurrence libre et non faussée, en raison de pouvoirs corrompus, de sa dépendance de la finance internationale, de la crise économique mondiale, de la loi d'airain de l'euro, le peuple grec est broyé par l'économie libérale. Le G20 et l'Europe soignent le malade par le mal et imposent au peuple grec un gouvernement ultralibéral, avec à sa tête un homme du sérail, Loukos Papadimos. Nouveau Premier ministre, il a été gouverneur de la Banque de Grèce. Il est celui-là même qui a organisé le passage de la Grèce à l'euro en présentant des comptes falsifiés par Goldman Sachs. Ayant montré sa compétence, il sera nommé vice-président de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, Loukas Papadimos est Premier ministre. Mais derrière la main des marchés, crainte de l'opposition, crainte du peuple, se profile à nouveau celle du fascisme. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, de la dictature des colonels, avec l'aval de l'Union européenne et de la finance internationale, l'extrême droite fait son retour au gouvernement avec un ministre et trois secrétaires d'État. Ministre des Transports et des Travaux publics, Markis Voridis est membre de l'Alerte populaire orthodoxe, un parti fasciste et xénophobe qui a participé et est intervenu au congrès du Parti de la France de Karl Lang, dissident du Front National de Marine Le Pen. C'est là l'aboutissement du chemin imposé décrit par Gerolimatos, l'auteur de Lettres de Grèce. Le peuple grec soumis à la dictature des marchés, des agences de notation, du capital, se voit imposer son gouvernement. Il ne décide plus de sa politique, il n'est plus maître de ses ressources, il est soumis aux dictats de l'Union européenne et des institutions financières. Il se retrouve dans une situation de pays colonisé par la pieuvre capitaliste. Pour la finance internationale, tous les peuples doivent passer sous le joug des marchés. L'exemple grec nous alerte. L'impérialisme colonisateur n'a pas de frontières. Nous avons le même ennemi que les peuples d'Afrique, d'Asie et des Amériques. Nos luttes sont communes.
Merci beaucoup Nils. Avant de passer la parole à Roxane, je voulais rappeler, ou non pas rappeler puisque je ne l'ai pas encore dit, que mercredi à 23h, vous pouvez entendre le témoignage d'Éric sur le Soir 3. Oui, et oui, c'est une vedette. Roxana, c'est à toi. Et après, je reviendrai pour vous faire un petit cadeau.
Alors, normalement, la chronique des Amériques doit commencer par un tout petit morceau. On va passer quelques phrases musicales de Reyes del Barrio Mundo, un groupe de rap salvadorien.
Leyendas vivientes desde bajo Centroamérica. Galeano. Y como puta voy a estar vendiendo coco a la gente. O hago mi vida en un fucking call center, ¿me entiende? En un país que no me entiende ni loco. Eso no cabe en mi mente. Porque preguntan de violencia delincuente que al fin del día ayuda al presidente. Amor o temor es el corazón o el cohete. Y nadie tiene valor de guiar honorablemente. Aquí nadie me representa en el pasado, en el futuro y tampoco en el presente. Y eso lo llevo presente en mi lucha de salir sobreviviente.
Ahogando pescados, deshazo estos ganados por la calavera. Me dicen endiablado, no sea pamado, nacemos y nos vamos. Creo entre los vagos, aprendí también ser malo. Es la bicha se incula, no ves la apariencia. Es como mi mente, piensa con conciencia. Cuando desarrollo mi ciencia, como mis soldados que están entrenados, agachados. Vamos, esta guerra
no es para cualquiera. Aprende a vivir, no es predecible cuando uno va
a morir. Ha vivido varias cosas que me han cambiado la mente. Como pude haber muerto, pero como escuché diferente. Bendecido, también corro con suerte.
Voilà, on a malheureusement dû couper le morceau parce que bien, ce sera pareil que la rubrique que je devais faire sur le Salvador. Elle est remise à la semaine prochaine. Donc, on va parler un petit peu de l'actualité des Amériques pour cette 7e chronique des Amériques. Et on va être dans une actualité, disons, un peu plus, allez, on va dire un peu plus agréable avec, eh bien, la réélection au Nicaragua de Daniel Ortega, qui est une bonne nouvelle. Alors que le même week-end, il y avait au Guatemala, eh bien, de nouveau, un général qui s'imposait. Donc la réélection dans un pays voisin, au Nicaragua, de Daniel Ortega, c'est le moyen de poursuivre l'expérience qui est menée dans le contexte de l'ALBA, c'est-à-dire que Daniel Ortega a commencé à agir pour le peuple. Donc l'ex-sandiniste qui a beaucoup effrayé, qui a beaucoup inquiété lors de son retour au pouvoir, parce qu'en fait c'était quelqu'un qui avait déjà eu le pouvoir mais qui avait été viré par les États-Unis avec l'épisode terrible des Contras et donc les 30 000 morts à la clé, puisque là-bas aussi on massacre quand on n'est pas d'accord avec le pouvoir, même s'il a été élu légalement. Donc Ortega, qui avait été élu une première fois en 2006 avec 37% des voix au second tour, là a été élu avec 72% au premier tour. Donc il est passé d'emblée et les résultats sont identiques pour le Front de Libération Nationale, le Front Sandiniste de Libération Nationale, ce qui veut dire qu'il a une assemblée pour l'appuyer dans ses décisions, une assemblée qui est élue majoritairement, enfin au premier tour, ce sont de très beaux résultats. Donc ça montre que bien les politiques sociales, ce souci d'améliorer le sort des plus pauvres. Et il faut savoir que dans les pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, les Amériques, quand on est pauvre, on l'est vraiment. C'est le stade vraiment très très avancé de la maltraitance des individus, qui a été le fait de tous les régimes néolibéraux qui ont succédé aux dictatures, qui ont alterné avec les dictatures des années 80 aux années 2000. Donc l'arrivée de ces présidents de l'ALBA, eh bien, donne lieu à des liens de coopération et qu'on va retrouver puisque le 2 et le 3 décembre a lieu la réunion de la CELAC. Donc, c'est une ALBA. C'est une structure différente de l'ALBA, mais c'est une alliance entre 33 pays des Amériques, très différents les uns des autres puisque aux côtés des pays de l'ALBA, c'est-à-dire Équateur, Bolivie, Cuba, Venezuela, donc tous des pays connus pour des dirigeants comme Ortega, ancrés franchement à gauche, il y aura aussi des pays comme le Mexique, comme la Colombie, comme le Chili, donc qui sont des pays qui sont pour certains même actuellement tentés de nouveau par des expériences néolibérales, c'est clairement le cas du Chili, mais tous veulent montrer qu'ils ne seront plus des colonies états-uniennes. Donc il y a un souci de souveraineté qui s'affirme aussi alors dans une démarche qui est menée, comme je suis obligée de faire en transversal. Eh bien, on connaît déjà certaines des réalisations de l'ALBA comme les accords de coopération énergétique, mais il y a aussi l'ALBA Alimentos, ce sont les questions agricoles et de souveraineté alimentaire qui sont très fortement d'actualité parce que ces pays ont été colonisés, ce qui signifie qu'on a exploité les richesses, on s'en est emparé, on a exploité la main d'œuvre, mais aussi on les a amenés à consommer, à se nourrir qu'avec des produits d'importation. Ce sont des pays producteurs de denrées agricoles, mais elles étaient réservées aux exportations. C'était des grandes bananeraies ou des grandes cultures extensives d'un seul type de produit et les produits nécessaires à l'alimentation de tous les jours des habitants venaient de pays extérieurs. Donc progressivement, certains retrouvent leur indépendance alimentaire, leur souveraineté alimentaire. Et il y a eu un colloque de la FAO qui s'est tenu à Cuba pour souligner que pour que l'agriculture progresse, eh bien c'est très important que les paysans soient des gens cultivés. C'est-à-dire que le niveau scolaire élevé des paysans et l'absence d'analphabétisme à Cuba, c'est une aide pour mieux maîtriser les innovations technologiques, donc pouvoir suivre par des vidéos, pour pouvoir lire des manuels, pour cultiver mieux, pour pouvoir se rendre maître de la situation. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est d'autant plus quand on est victime du blocus comme Cuba, une chose tout à fait indispensable. Donc les Cubains ont développé des instituts de recherche et actuellement ils évoluent vers la production de semences plus résistantes aux maladies et plus nourrissantes dans le cadre de mesures d'alimentation, d'amélioration de l'alimentation du peuple. Voilà, alors ce sont des aspects qui vont être évoqués, mais de façon contraire, il y a un colloque qui est prévu le 4 décembre, j'ai reçu ça, de la part d'amis des Antilles, parce que là, à force de pesticides et autres, eh bien les terres ne produisent plus ou produisent des aliments dégradés. Donc je vais vous parler maintenant d'une mobilisation qui est générée par nos amis guadeloupéens, parce qu'il y a une répression actuellement terrible en Guadeloupe. Les militants syndicaux sont l'objet de tests ADN. On essaye de leur faire porter la responsabilité de meurtres qui ont été commis pendant les soulèvements. On essaye aussi de rendre les militants, les responsables syndicaux, voire les responsables associatifs. Donc on essaye de dire que ce sont eux qui sont à la base des violences en Guadeloupe. On essaye donc de les charger, on essaye de justifier la répression. Ils passent les uns après les autres devant les tribunaux. Il leur est infligé des amendes sévères, des peines de prison avec sursis. Donc la répression est toujours menée par l'État français, la métropole française vis-à-vis des territoires, des départements d'outre-mer. Il ne faut pas dire colonies. Voilà, donc ça c'est un aspect très important. Il y a donc, pour résister, la solution adoptée par nos amis des Amériques qui, sans doute, fait un peu école en Guadeloupe, puisque la Guadeloupe est un pays très voisin. Souvent, on peut mettre trois îles en rapport, c'est-à-dire Haïti, la Guadeloupe et Cuba, et voir trois destins. Donc Haïti qui a